7h18, les enjeux internationaux. Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Marc.
Et aujourd'hui, le Niger, les suites de la prise du pouvoir par une junte militaire.
Et d'une façon plus générale, on parlera aussi de l'évolution des coups d'État militaires en Afrique, au moins depuis les bouleversements internationaux de 89-91. Notre invité à Lausanne, Makita Kasongo, bonjour. Alors, vous êtes enseignant à l'Université de Lausanne, Sciences Po. Le Niger, donc, n'a pas été exempt de tentatives de coup d'État ou de coup d'État dans les années passées. On peut citer 1996, 1999, et puis il y a quelques jours. Ce dernier, donc, a écarté Manu Militari, le président Tandja, qui lui-même était un ancien militaire, mais démocratiquement élu, et qui, après avoir assuré deux quinquennats, avait dissous le Parlement et la Cour constitutionnelle, tout en faisant adopter en août dernier une nouvelle constitution qui lui permettait de régner, entre guillemets, jusqu'en 2012. Alors, ce coup d'État n'a pas été impopulaire, n'a pas été trop vigoureusement condamné par l'Union africaine, ne débouche en revanche sur aucun programme, sinon sur la volonté d'assainir la situation politique. Et on annonce en même temps une réorganisation de l'État de fond en comble et de nouvelles institutions. Donc, quel regard portez-vous sur ce type de coup d'État et puis sur ce qui s'est passé encore une fois en Afrique depuis bon nombre d'années? Makita Kasongo.
D'abord ce fait par rapport au Niger, qu'on en est donc, vous l'avez dit, au premier coup d'État, le quatrième en l'espèce depuis 1974. Et ce qui est intéressant à noter en même temps, c'est la permanence en quelque sorte de ce mode de gouvernance par le coup d'État militaire, mode de gouvernance ou peut-être plus exactement mode d'alternance politique. Au-delà même de la vague de démocratisation de la fin des années 80, le coup d'État militaire est demeuré très omniprésent comme mode d'alternance politique. Donc, l'élément intéressant, il faut quand même répertorier, pas moins de 260 coups d'État depuis les années 60. L'accès à l'indépendance, on est cette année au cinquantenaire des indépendances africaines. Entre 60 et 90, pas moins de 260 coups d'État ou tentatives de coups d'État. Et entre 1999 et ce jour, une trentaine de coups d'État ou tentatives de coups d'État.
Oui, on peut citer évidemment, même récemment, évidemment, Côte d'Ivoire 99, la Guinée, Conakry, il y a très peu de temps, 2009.
La Mauritanie.
Mauritanie, Guinée-Bissau 2003, etc. Enfin, on a l'embarras du choix et en même temps, on avait l'impression que ces coups d'État ou ces tentatives s'espaçaient.
Oui, effectivement, il y a eu comme une sorte de régression sous l'effet de la vague de démocratisation. Mais en quelque sorte, c'est la pérennité même du mode de gestion autoritaire qui favorise par défaut, en quelque sorte, et du fait de la faiblesse de l'institutionnalisation étatique et démocratique qui favorise comme seule alternance possible ce mode d'intervention militaire le plus souvent soudain et violent.
On avait l'impression quand même autrefois, c'est-à-dire avant les bouleversements internationaux, jadis qu'il y avait trois pivots en Afrique qui étaient plus ou moins fédérateurs pour un même État ou plus ou moins pluriethnique. C'était le parti unique, évidemment, c'était l'Église ou les Églises, et puis c'était l'armée, justement, qui avait le mérite, entre guillemets, de rassembler plus ou moins tout le monde. Et ces trois pivots ont été, évidemment, transformés depuis une vingtaine d'années.
Ils ont été transformés, mais à noter que le parti unique, par-delà le monopartisme très ambiant, en quelque sorte, le parti unique a très souvent révélé la faiblesse de sa carapace, hein, et n'a jamais véritablement su opposer la moindre résistance sous une vague, évidemment, militaire, quand elle intervenait. Les églises demeurent une force puissante, mais ça reste encore au stade de la société civile et en quelque sorte, leur mode d'action même leur interdit toute action politique avérée ou aussi forte que celle de l'armée. Restait donc comme seule solution l'armée, effectivement, surtout quand elle arrive à tenir ce discours démocratique, même si son envie de s'accrocher au pouvoir prend très souvent le dessus.
Oui, bah alors c'est ça, parce que quand l'armée parfois prend le pouvoir, elle dit on va remettre assez rapidement aux civils le pouvoir, mais et donc quand le peuple sera prêt, mais souvent le peuple n'est jamais prêt.
Oui, souvent le peuple.
Au bout de quelques décennies, il n'a toujours pas compris.
Oui, exactement. C'est justement ce double langage, en quelque sorte, de la part de l'armée qui montre très bien, finalement, qui pose en même temps le problème de l'appui ou la réserve que l'on peut avoir par rapport à ce mode d'intervention. On dit bien, on voit très souvent maintenant les images à propos du Niger où finalement le peuple, la population semble acquise à ce changement du fait de la gestion très autocratique du président déchu. Mais en même temps, bon, dans quelle mesure n'est-on pas engagé dans un marché de dupes? L'armée donne des gardes, tient ce discours du changement et de la restauration de la démocratie, mais ça reste un discours. Rien ne lui interdit de se présenter ensuite aux prochaines élections qu'elle va organiser elle-même. Et en tout cas, c'est là où l'exemple du Mali avec le président actuel était quand même très emblématique, dans la mesure où lui a su organiser une transition sans se présenter aux élections lui-même.
Mais vous pensez, M. Kassongo, que c'est peut-être une forme d'exception en Afrique noire?
Bon, c'est assurément une exception. Hein. On voit ce qui s'est passé en Guinée et ailleurs. Généralement, on troque l'uniforme contre la tenue civile et on s'accroche au pouvoir. N'oublions pas que le président déchu au Niger déjà était participant au coup d'État de 1974.
Absolument. Alors, on est peut-être un peu injuste, en tout cas peut-être pas vous, mais comment pourrait-on dire la couleur de cette émission, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de régimes stables et heureusement stables. Je pense par exemple à la Namibie, Botswana, je vois le Mozambique, le Sénégal d'une certaine façon, Burkina, etc., etc. Stabilité ou même démocratisation par étapes.
Oui, tout à fait. Je pense qu'on est injuste et même à la limite, moi je ne considère pas du tout le coup d'État militaire comme un signe, une manifestation de l'échec de la démocratisation en Afrique. Ça n'est qu'une étape, le creux de la vague sans doute de ce processus et donc ça ne condamne pas du tout l'entreprise de démocratisation qui est en cours dans d'autres pays et qui...
Voilà. D'une certaine façon, ça remet au pas des civils qui dérapaient dans l'exercice de leur pouvoir.
Exactement.
Bon, dit comme ça. Merci en tout cas. Donc, Makita Kassongo, je rappelle, vous êtes enseignant à l'Université de Lausanne, Sciences Po, franceculture.com. Et puis demain, un sujet marque tout à fait intéressant. Il s'agira de la France et de la diplomatie d'influence avec l'ambassadeur Henri Degnaud.
Merci Thierry, à demain.
À demain.